Raphaël Grasset, je suis le fondateur de Trendy, qui est une société d'innovation pédagogique basée sur les sciences cognitives, puisque je suis aussi chercheur à côté, rattaché à l'université de Nanterre. Et effectivement, le sujet de l'engagement en formation, en fait, est venu de cette double approche à la fois de recherche et de terrain. D'un côté de la recherche, on avait beaucoup de thématiques et de problématiques qui sont posées, qui n'ont pas encore forcément beaucoup de réponses sur ces questions-là. De l'autre côté, en discussion avec mes clients chez Trendy, j'avais des retours comme quoi l'utilisation des ressources pédagogiques qui étaient mises à disposition des apprenants était faible, que voilà, toutes ces problématiques-là en fait qui revenaient très souvent, et même quand on en parlait avec des clients, il y avait souvent des sourires parce que tout le monde est au courant de cette problématique, mais tout le monde n'a pas forcément les réponses.
Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carifor-F des Hauts-de-France. Nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale consacrée au plan d'investissement régional dans les compétences en Hauts-de-France, le PACTE. Nous avons le plaisir d'accueillir et de vous faire découvrir un acteur ou un porteur de projet du PACTE pour nous présenter un dispositif ou une action engagée. Avec le témoignage de notre invité, nous saurons tout quant au contexte, au choix du format, aux partenaires associés, aux ambitions, aux réussites, mais aussi aux difficultés rencontrées à cette occasion.
Bienvenue dans le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carifor-F, Hauts-de-France. Nouvel épisode aujourd'hui qui prend la forme d'une annonce, d'un rendez-vous à marquer dans vos agendas. Nicolas Vispy, Catherine Mougin et Raphaël Grasset, que vous avez entendu en introduction, sont nos invités aujourd'hui. Tous trois sont à l'origine d'une enquête qui porte sur un sujet de préoccupation constant dans le domaine de la formation professionnelle continue. Et comme vous l'avez entendu, il s'agit de l'engagement en formation. Nicolas Vispy revient pour nous sur les origines du projet.
Bonjour, je suis Nicolas Vispy, donc moi je suis chargé de mission à l'ARACTO de France, donc l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, et je suis en même temps coordinateur du labo d'innovation Catalio. Catalio, c'est une dynamique de laboratoire d'innovation qui est basée en Hauts-de-France, appliquée au champ de la formation professionnelle continue, et dont le rôle en quelques mots est d'accompagner les acteurs de la formation professionnelle dans le renouvellement de leurs pratiques, c'est-à-dire qu'on a une activité principal d'accompagnement de projet, d'appui à l'émergence, d'appui à l'ingénierie de projets d'innovation en matière de formation, et une activité de production d'enseignement qu'il s'agit de diffuser sur des temps comme aujourd'hui notamment. On a déjà collaboré précédemment avec Catherine, donc il y a un effet de connaissance mutuelle, de connaissance de l'approche de Catalio, qui fait qu'il y a elle y voit une perspective possible en venant croiser avec nous. Et puis ensuite, il y a ce que je disais en introduction, c'est-à-dire qu'on est un labo d'innovation et quelque part, on a il y a une flexibilité, une plasticité qui est inhérente à ce format-là, qui fait qu'on a la capacité, nous, à un moment donné, se saisir d'un objet, le prendre par un bout et puis jouer le rôle un petit peu de défricheur et d'aiguilleur. Et voilà, ce qui explique aussi pourquoi on a fait ce choix-là de procéder un petit peu par une enquête exploratoire. On est parti de quelque chose, d'un sujet qui est éminemment très large, sur lequel il y a déjà une connaissance produite qui est abondante. Donc il y a quand même eu un premier travail, on va dire, de revue de littérature qui a été fait pour essayer de se définir une matrice, on va dire, d'investigation. Et puis ensuite on a procédé par une approche exploratoire, c'est-à-dire par entretien avec des acteurs de la formation, que ce soit les financeurs, les prescripteurs, les réseaux d'accompagnement, les organismes de formation, aussi bien les dirigeants que les formateurs ou responsables pédagogiques, pour essayer de se définir un petit peu une image, une représentation et aussi caractériser la représentation de ces acteurs-là sur les questions de l'engagement pour que ça puisse ensuite nous servir à élaborer une stratégie d'action. Donc cette enquête-là et ce qui sera diffusé fin mai, c'est en fait une première étape d'un processus un petit peu plus long, mais qui comporte un certain niveau d'incertitude, c'est-à-dire on ne sait pas de quoi la suite sera faite puisqu'elle dépend aussi de la manière dont les acteurs vont s'appréhender cette première étape-là.
Il nous reste à faire connaissance avec Catherine Mougin et c'est avec elle que nous précisons l'approche qui a été adoptée par le trio par rapport à l'engagement.
Catherine Mougin, je suis présidente de 3E Innovation, une agence Digital Learning, chercheur associé à l'Université Paris-Nantes, donc avec Raphaël. On collabore effectivement avec Raphaël sur d'autres projets et quand il m'a appelé pour m'expliquer le retour qu'il avait de ses clients, je lui ai dit, c'est exactement ce pourquoi je travaille en fait. Parce que moi, mes clients viennent souvent me voir pour me dire le e-learning, ça marche pas et l'engagement des apprenants n'y est pas du tout, et en particulier pendant et post-Covid. C'est comme ça que j'ai fait le lien en fait entre ce que me disait Raphaël et puis ayant travaillé avec Catalio à l'époque, c'était pas encore tout à fait Catalio, en tout cas avec Nicolas, j'ai fait le lien en me disant que c'était un sujet qui était fréquent partout, c'était national, c'était pas que les Hauts-de-France, loin de là, et que ça pouvait être intéressant pour le laboratoire Catalio de travailler là-dessus. Du coup, c'est cette double casquette à la fois terrain, praticien dans le digital learning et chercheur avec Raphaël qui nous a permis de proposer cette recherche à Catalio et à la RAC. Par rapport à l'engagement, on a retravaillé un petit peu notre début de protocole de recherche, on va dire, pour l'adapter aux Hauts-de-France, mais surtout, on s'est associé avec Fabien Fenouillet, qui est le grand nom de l'engagement, en tout cas de la motivation, de la théorie de la motivation. Et nous, ce qui était intéressant pour nous, c'est d'avoir la représentation des acteurs sur ce qu'était l'engagement en formation. Et ça, c'était déjà intéressant parce qu'au-delà de la recherche, au-delà de ce qui peut se dire, là, finalement, c'était déjà de partir du terrain et non pas de partir de la recherche, partir du terrain pour faire ressortir des déterminants et des facteurs d'engagement. Donc ça, c'était notre première idée, et c'était justement pas d'y aller avec une casquette chercheur, on sait tout et on va vous dire ce que c'est, mais plutôt dans l'autre sens. Nous, on aimerait savoir ce que vous entendez, vous, en tant qu'acteur du système de formation.
Nous venons de l'entendre, il s'agit d'une enquête exploratoire dont le point de départ est le terrain et non une approche strictement académique. Nicolas Vispy nous précise les contours de la méthode.
On a fait le choix d'une approche exploratoire, c'est-à-dire essayer d'avoir un panel qui soit, j'aime pas trop ce terme-là, mais un peu, pas représentatif, mais caractéristique de l'appareil de formation. Parce qu'il y a rien, ce qui caractérise l'appareil de formation en région, c'est quand même le fait qu'il soit très hétérogène. C'est-à-dire, il y a des grosses structures, il y a des petites structures, il y en a qui fonctionnent sur fonds publics, sur d'autres sur fonds privés, il y en a dont la formation est l'activité principale, d'autres dont l'activité de formation est minoritaire. Il y en a qui sont des professionnels de la formation, il y en a qui sont des experts métiers qui font de la formation. Et donc, on a un système qui se caractérise par son hétérogénéité. Et donc, on ne pouvait pas dupliquer une intention de recherche dans ce contexte-là. Donc, il fallait essayer d'avoir un petit peu la diversité des cas de figure possibles, sans viser l'exhaustivité parce que c'est impossible, mais au moins pour essayer de récolter des éléments qui permettent ensuite de créer une éventuelle suite. Et c'était important pour nous parce que, il y a aussi un autre élément qui faisait qu'il y avait besoin de situer et d'ancrer ça à l'échelle territoriale, c'est que la répartition de l'offre de formation sur la région Hauts-de-France, elle est très inégalitaire. Il y a plus d'organismes de formation dans la métropole européenne de Lille qu'il n'y en a dans tout le département de l'Aisne. Voilà où se situent l'offre et les structures, et donc on peut pas avoir une seule réponse possible et dupliquer un dispositif sur l'ensemble du territoire régional. Donc il y avait besoin de passer par cette phase-là pour tenter de mettre en visibilité les représentations des acteurs pour ensuite la confronter à eux, enfin qui se confrontent à ces résultats-là, pour que ça nous aide à définir la suite du travail.
Raphaël Grasset d'abord, puis Nicolas Vispy nous donnent un aperçu des populations interrogées, de leur perception et de leur définition de l'engagement. Et nous découvrons qu'un certain nombre de déterminantes étaient identifiées, qui vont jouer sur la qualité de l'engagement.
On parlait d'études exploratoires, mais l'étude qu'on a menée cette fois-ci, elle s'est intéressée principalement en fait aux acteurs institutionnels et aux organismes de formation. L'idée, c'est peut-être dans un second temps d'aller discuter avec les apprenants et les formateurs. C'est pour ça qu'on parle d'une étude exploratoire ici, travaillant sur la vision qu'ont ces acteurs-là. Ce qu'on a appris avec les 14 entretiens qu'on a fait auprès des acteurs publics, Pôle emploi, la région, les branches, et aussi en interviewant des organismes de formation, soit leur directeur, soit leur responsable pédagogique, c'est la vision qu'ils avaient pour eux de ce que c'était qu'un apprenant engagé en formation. Et selon eux, c'est un apprenant qui est actif, avec un projet qui fait sens, tout ça dans un écosystème en lien. Donc, pour revenir un petit peu sur ces trois aspects d'une définition qui leur appartient à ces acteurs-là, pour eux, l'apprenant doit être actif dans le sens où il doit se donner les moyens de réussir. Souvent, c'est un investissement temporel, monétaire, d'être présent lors des formations, de montrer son intérêt, de s'approprier les contenus qui sont mis à sa disposition. Le fait qu'il ait aussi un projet, donc ça c'est une notion qui est assez complexe, mais c'est de justement de concrétiser sur le moyen et le long terme ce que c'est que le projet pour lui, et comment il va lui donner du sens en fonction de son contexte, qui est spécifique à chaque individu. Donc c'est ça qui est difficile aussi, c'est-à-dire qu'on doit donner sens à quelque chose qui est spécifique à chaque individu. Donc on peut pas le faire de manière automatisée sur des grandes quantités de personnes, comme par exemple traite Pôle emploi. Et c'est vraiment un investissement sur un parcours de vie pour l'apprenant, quoi. Donc ça doit vraiment lui parler. Et enfin, le dernier point, c'est que bah, ces apprenants, ils évoluent dans un écosystème où, tout au long de leur formation, ils vont avoir affaire à de nombreuses personnes, que ce soit des conseillers, les formateurs, les administrateurs, les futurs employeurs. Bien que justement ces personnes-là doivent se coordonner entre elles pour faciliter les choses pour les apprenants, tout au long de leur formation, les apprenants doivent aussi développer la capacité de s'adresser à la bonne personne au bon moment au cours de leur formation. Et donc tous ces aspects en fait favorisent, selon les acteurs qu'on a interrogés, l'engagement en formation des apprenants.
Et après, dans ce que nous on a vu, enfin vu c'est un bien grand mot, mais sur les problématiques, ouais, les problématiques qui apparaissent ou qui nous revenaient par des questionnements ou de l'expression informelle, hein, c'était des problématiques de sourcing, des difficultés à remplir certaines formations, même si parfois il y a un peu cette logique adéquationniste entre ben, on a des offres d'emploi à pourvoir, il y a une offre de formation existante, mais de la difficulté à mettre en relation, et donc on voit bien qu'on ne peut pas être uniquement dans une logique adéquationniste entre des emplois d'un côté, une offre de formation au milieu et des apprenants de l'autre. Donc il y a d'autres déterminants qui interviennent, d'où l'idée d'aller investiguer cette question-là, de ces déterminants, ce qui est un peu le corps de ce qui a constitué l'étude, c'est justement d'identifier et de proposer, d'être une proposition d'un cadre de lecture des déterminants de la formation qui, pour une partie, se joue dans les dispositifs, mais qui peuvent se jouer également en amont de la formation, dans ce qu'aura Catherine et Raphaël ou appelleront un petit peu les déterminants périphériques. Donc il y a cette problématique du sourcing, il y a aussi des problématiques où finalement on était dans une période avec le plan d'investissement dans les compétences, finalement d'une forme de concurrence entre le nombre de dispositifs existants et le nombre de dispositifs qui ciblaient des publics identiques. Ce qui fait qu'à un moment donné, bah, ça crée une forme de concurrence à l'intérieur du système qui fait que, bah oui, on chasse les mêmes publics, donc on a à un moment donné des difficultés à remplir. Donc il y a d'autres déterminants que la simple existence de dispositifs. Donc il fallait pouvoir investiguer, on va dire ce qui a un peu guidé la matrice de réflexion, c'est qu'il y a des déterminants du côté des dispositifs et de l'ingénierie, de formation et pédagogique. Il y a des déterminants du côté, on va dire, des dispositifs de financement de la formation. Et il y a bien évidemment un troisième point qui est, on va dire, les déterminants psychosociaux, voilà, qui sont du côté de l'apprenant. Donc, dans le cadre de cette étude-là, on s'est intéressé à ce qui est de l'ordre du dispositif en laissant de côté les apprenants parce que bah, c'est pas le but d'une étude exploratoire que de viser l'exhaustivité. Mais certes, c'est un élément absent aujourd'hui, mais qui pourra être levé dans un second temps.
Avec Catherine Mougin, nous détaillons maintenant l'étendue de la liste des déterminants de l'engagement que nous parcourons un à un.
Ces entretiens nous ont permis de découvrir 9 déterminants de l'engagement. Ces déterminants n'ont pas d'importance les uns par rapport aux autres quand je vais les citer. C'est juste qu'on les a listés dans cet ordre-là. Donc le premier, c'est la mobilité physique et psychologique des apprenants. Le second, c'est la technologie ou les technologies. Il y a aussi l'attractivité des métiers qui va avoir son importance par rapport à l'engagement en formation. Bien sûr, le cœur du travail des organismes de formation qui est la pédagogie. Donc l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique. Un élément beaucoup plus macro, c'est le cadre légal et réglementaire de la formation. Au niveau des apprenants, ça va jouer sur les problématiques sociales de ceux-ci, mais aussi pour les organismes de formation, c'est l'information de la formation, c'est comment j'atteins mon public et comment mon public sait ce que je fais en tant qu'organisme de formation, ce que je propose. Il va s'agir aussi de l'implication des différents acteurs, et là on va aller assez loin dans les différents profils d'acteurs. Ça va aussi se jouer sur la perception de la formation pour les apprenants et du coup pour l'appareil de formation. Je prends l'exemple, alors qui n'est pas spécifique clairement aux Hauts-de-France, mais qui est quand même un point peut-être plus important aux Hauts-de-France par rapport à d'autres régions, par rapport à ce qu'on peut vivre avec Raphaël, c'est tout ce qui est problèmes socio-économiques. Ça va être un élément important qu'on va retrouver, nous, pendant les entretiens, avec des difficultés liées au logement, à la santé, tout ce qui est en rapport avec l'addiction, par rapport à des situations de vie, hein, des ruptures dans la vie, de type divorce, décès, etc., qui vont avoir une influence de plus en plus importante dans la suite à donner de la formation des apprenants. Et ça, ça va jouer à la fois pour les formateurs qui vont vivre ces situations de vie, qui vont être très difficiles à gérer, et ça va être tout un groupe qui va le vivre aussi. Ça veut dire que ce contexte-là, qui va être d'une ou plusieurs personnes dans la formation, va falloir pour le formateur, pour l'organisme de formation, et ben travailler avec ça. Et pour ça, l'autre facteur qui a émergé par rapport à ces situations-là, qui est un facteur très positif, c'est le travail en partenariat. L'ingénierie territoriale qui s'est faite avec un espèce de réseau de partenaires, que ça soit public, privé, associatif aussi beaucoup, et un travail de combinaison d'acteurs qui va permettre à l'apprenant de passer, j'ai envie de dire le cap par rapport à toutes ces situations-là, et rester en formation avec un soutien parfois psychologique, parfois médical, avec par exemple des médecins dans le cadre d'associations d'addictologie. Ça va être un soutien avec les services de l'État pour avoir droit à des aides particulières par rapport à son logement ou avoir un nouveau logement. Voilà, ça va être tout ce réseau-là qui va se créer, qui va être mobilisé tout autour de l'apprenant en difficulté, qui va lui permettre d'aller jusqu'au bout et du coup d'être entre guillemets pris en compte, et non pas sur ses savoirs, ses compétences de demain ou les compétences d'aujourd'hui, mais en tant que personne à part entière. Et c'est ça qui fait, à mon avis, la force sur les Hauts-de-France, c'est vraiment cette capacité de travailler ensemble, quels que soient les acteurs, et on sort complètement du cadre de la formation, parce qu'on va aller sur des services et des associations, on va dire, liées à l'humain, l'addictologie, tout ce qui est lié à la santé mentale, on va être vraiment sur l'humain en tant que tel, et non pas sur l'apprenant. Et là, je trouve qu'il y a une vraie différence, un élément très positif par rapport à ce qu'on a pu entendre lors des entretiens.
Comme nous l'ont dit nos intervenants, ce travail est exploratoire. Il en reste encore à accomplir pour compléter ses résultats. Raphaël Grasset et Nicolas Vispy nous évoquent l'avenir du projet.
Donc effectivement, là aujourd'hui, on a interviewé certains acteurs, donc on a réussi à récupérer leur perception. Et l'idée, c'est aussi d'aller voir la perception d'autres acteurs, que sont aussi les apprenants et les formateurs, qui peuvent avoir des visions terrain différentes. Et au-delà des représentations, ce qu'on aimerait bien faire aussi en termes de recherche, c'est d'aller sur des études un peu plus quantitatives pour observer l'impact réel de tel ou tel facteur, que ce soit le soutien, l'autorité, l'évaluation, la confiance en soi, sur les facteurs d'engagement, parce que dans un de ceux qu'on a observé, c'est la perception de la formation et la représentation scolaire que les gens peuvent avoir de ce que c'est qu'apprendre. En recherche, on parle un peu de brûlure d'apprenance parfois, et ce qui serait bien, c'est d'identifier un peu plus spécifiquement l'impact concret et de le mesurer, de le quantifier, de chacun de ces facteurs sur l'engagement en formation. Donc ça, ce serait une première approche un petit peu recherche des pistes que couvre cette première étude exploratoire. Et en termes d'expérimentation, peut-être plus pour continuer à créer du lien avec les différents acteurs des Hauts-de-France, ce serait de proposer un accompagnement aux équipes pédagogiques qui seraient volontaires pour les aider à transformer et faire évoluer leur dispositif pédagogique dans une optique de favoriser l'engagement et bien évidemment d'en mesurer l'impact.
On entre dans une étape en fait où on va partager cette analyse-là, cette enquête-là, dans l'idée un petit peu d'un partage, d'une mise en discussion, d'une mise en confrontation, pour que un peu dans l'idée un peu d'un groupe miroir, c'est-à-dire de confronter l'analyse qu'on fait au travers des 14 interviewés à un panel un peu équivalent, et de voir où sont les points de convergence, où sont les points de divergence, où sont les accords, où sont les désaccords, pour que ça nous permette en fait d'orienter la suite, de dire on aurait peut-être un groupe qui serait intéressé pour faire une évaluation, une observation des dispositifs. On aurait peut-être un autre groupe qui serait intéressé par une approche quantitative. C'est-à-dire des pistes, on a des hypothèses de poursuite, bien évidemment, que ce soit en termes de recherche, que ce soit en termes d'accompagnement, d'expérimentation. Mais l'idée, c'est pas on n'est pas centré, nous, sur la destination finale, mais on est plutôt un aiguilleur, et en disant, quel chemin vous souhaitez vous approprier, comment on peut venir outiller, faciliter le voyage vers cette destination-là. Donc c'est vraiment une première étape un petit peu de mise en confrontation de cette enquête-là. Donc il y a ce podcast-là qui est un premier élément pour nous. Il y a une restitution publique qui va être organisée le 30 mai, justement. Et donc les invitations, vous pourrez les retrouver sur la page LinkedIn de Catalio, sur les réseaux sociaux et puis sur les outils du C2RP, hein, je pense, voilà, le C2 Actu, La Place, pour aider. Voilà, ce qui va constituer un peu le premier temps de partage et de mise en discussion de cette enquête-là. Et il y a également une diffusion un petit peu plus élargie qui est prévue le 15 juin, sur un webinaire qui sera également, qu'on va animer avec Catherine, Raphaël et moi et qui sera organisé par le C2RP, qui nous permettra à un moment donné, de réfléchir sur ces temps de restitution, voilà, qu'est-ce qui s'en dégage, comment les gens se sont appropriés ces éléments-là pour essayer de construire la suite.
Ce podcast touche désormais à sa fin. Vous venez de l'entendre. Nicolas Bispy nous a dévoilé deux dates, le 30 mai et le 15 juin prochain, pour une découverte des résultats et la tenue d'un webinaire. Aussi, nous vous invitons à suivre l'actualité du C2RP qui, bien évidemment, se fera le relais de l'ensemble de ces informations. Nous remercions chaleureusement nos trois intervenants, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous sur le site internet du C2RP, ses réseaux sociaux pour écouter et réécouter l'ensemble des épisodes. À très bientôt pour un prochain numéro.
Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.